Je reprends mon texte de base dans Galates 5, 22, où il nous est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est… » Et alors, selon les traductions, il y a une ancienne version et une nouvelle. Alors, j'utilise les deux expressions. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'ancienne version disait la charité. La charité est le terme qu'on n'utilise plus tellement, mais ça voulait dire quelque chose de spécial parce qu'on voulait différencier l'amour agapé, cet amour de Dieu, et l'amour qui peut être l'amour naturel, humain ou que sais-je. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et la bienveillance, l'ancienne traduction disait la bénignité. La foi, qui est le sujet que nous voulons voir aujourd'hui, et l'ancienne version disait la fidélité. La douceur, la maîtrise de soi, et on a aussi le mot tempérance pour parler de cette maîtrise de soi. Donc aujourd'hui, l'aspect du fruit de l'esprit que nous voulons voir, c'est la foi. Mais je vais choisir de ne pas parler de la foi du tout, tout en traitant la foi. Un bel exercice, hein? Parce que je crois que la foi, elle est présente dans toute la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. On est sauvé par la foi. Si on veut déplacer des montagnes, eh bien, il nous faut faire usage de la foi. Donc Jésus a beaucoup enseigné sur la foi, mais ce n'est pas de cette foi-là que nous voulons parler. Il y a une différence entre le don de foi, il y a une différence entre marcher par la foi, il y a une différence entre grandir dans la foi et avoir la foi comme résultat du fruit de l'esprit. Donc, je crois que l'ancienne version qui parle de la fidélité nous aide un peu à comprendre ce dont il s'agit. Cette foi qui est le fruit de l'esprit, c'est en réalité cette confiance, cet attachement et cette fidélité. Parce que je peux dire, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance dans la puissance des paroles que Dieu met dans ma bouche, et je verrai des choses changer. Alors j'ai le don de foi, par exemple, qui se manifeste. Mais je peux aussi simplement, en moi-même, manifester ma confiance d'une façon différente. En ayant une attitude où je reste attaché à Dieu. Et cet attachement, eh bien, se traduit par la fidélité. Et c'est pourquoi, eh bien, c'est bon de lire des fois dans plusieurs versions, parce que ce n'est pas trahir le sens du texte. D'autant plus que, en anglais, c'est intéressant de voir que fidélité se dit faithful. Et ça utilise les deux mots, faith, qui est la foi, et full, qui veut dire plein. Donc, celui qui est fidèle, en anglais, faithful, ça veut dire qu'il est plein de foi. C'est intéressant, hein? Et au Moyen-Âge, je me rappelle d'un film classique qu'on regardait. Eh bien, il y avait la jeune fille qui demandait au chevalier, est-ce que votre foi est engagée? Ça voulait dire, est-ce que vous êtes déjà lié à quelqu'un au niveau de vos sentiments en vue d'une union future? Et donc, il y a des mots anciens où nous voyons que la foi, eh bien, elle a plusieurs aspects. Et donc, c'est cet aspect de la fidélité que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Puisque la foi, c'est aussi être fidèle à ses engagements et à ses promesses. Si on prend la définition simple de la fidélité, on peut trouver trois aspects. Celui qui est fidèle, il remplit ses engagements. Il manifeste un attachement constant et la fidélité, ça peut être ce qui est exact, juste, conforme. Ce qui est fidèle, reproduire fidèlement un schéma ou un plan, ça veut dire je le recopie exactement comme il est. Donc voilà ces trois définitions et on va les parcourir un petit peu ensemble. Premièrement, j'aimerais dire, et vous l'avez peut-être remarqué déjà, que la fidélité n'est plus à la mode. La mode, je ne sais pas si quelqu'un de vous suit la mode, vestimentaire ou autre, la mode c'est un courant de pensée ou de choses que les gens désirent faire, s'habiller. Eh bien, la plupart, pour être dans le coup, il faut suivre la mode. Donc nous sommes dans une société où il y a toutes sortes de modes. Il y a des modes vestimentaires, comme j'ai dit, mais il peut aussi y avoir des modes au niveau de la façon de penser, la façon de raisonner. Et donc, on vous présente certaines choses comme étant vieillottes, dépassées. Ainsi, la fidélité. Pour la plupart des gens, le grand courant de pensée, c'est que la fidélité n'est plus à la mode. Bien sûr, ils ne vous le diront pas comme ça. Ils voudront toujours que, s'ils sont avec quelqu'un, la personne leur reste fidèle. Mais l'important, ce n'est pas est-ce que l'autre est fidèle envers moi. C'est d'abord mon attitude. Est-ce que moi, j'ai ce sentiment, cette prise de décision, de position, qui dit « je suis fidèle ». Même si la fidélité n'est plus à la mode, cela ne fait pas de différence pour nous, puisque nous sommes des gens différents. Nous sommes appelés à être différents. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon le train de ce monde. Romains 12 nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu n'est pas soumis à la mode. C'est lui-même qui impose son standard. Et nous, qui sommes ses enfants, nous devons être comme lui. La Bible dit quelque part, dans 1 Jean 4, « Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous sommes ses enfants. » Les parents, souvent, aiment que leurs enfants leur ressemblent. Des fois, on n'aime pas trop non plus parce qu'il y a des défauts et des traits de caractère qui se révèlent où on se reconnaît. Mais d'une manière générale, on est quand même fiers. On se dit, c'est les nôtres, on les reconnaît bien. Et donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être à l'image de notre Père céleste. Et c'est lui qui établit le standard pour notre vie. Dans le psaume 89, 3, il nous est dit « Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. » Dieu établit la fidélité. C'est-à-dire que c'est lui qui marque ce standard. Il dit « Voilà ce qu'il faut faire, il faut être fidèle. » Et mon discours ne sera pas un discours de moralisateur « Vous devez être fidèle. » Mais simplement qu'on comprenne qu'il y a quelque chose de spirituel dans la fidélité. Et qui dit quelque chose de spirituel, dit qu'il y a quelque chose de puissant et quelque chose qui va apporter une bénédiction dans notre vie. C'est ce qui nous importe. Tout le monde veut être béni. Personne dit « moi je veux être maudit ». C'est ridicule. Et on veut tous les bonnes choses de Dieu, les bonnes choses de la vie. Donc quand on veut les bonnes choses de Dieu, il faut comprendre ce qu'il dit dans sa parole. Il établit le standard. D'abord, il est fidèle lui-même. Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle, comment peut-il exiger des autres qu'ils soient fidèles? C'est normal. Exode 34, 6, je vous le dirai quand il y aura des passages qu'on va vraiment lire tous ensemble, sinon vous allez chercher, et pendant que vous cherchez, on est déjà plus loin. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Deutéronome 7, 9, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Deutéronome 32, 4 « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car tes voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » 1 Corinthiens 1, 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 24 nous dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » 2 Thessaloniciens 3, 3 « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Et il y aurait encore, j'en ai pris plusieurs pour marquer notre esprit pour qu'on se rende vraiment compte combien la Bible parle de la fidélité de Dieu et appelle Dieu le Dieu fidèle. Mais il y en aurait encore beaucoup, beaucoup plus. On pourrait passer toute la matinée à lire des passages bibliques qui parlent de la fidélité de Dieu. Mais ce n'est pas le plus important. C'est important que nous sachions que Dieu soit fidèle, mais plus important pour nous, je parle, c'est que nous sachions comment devenir à notre tour fidèle. D'accord? Parce que le fait que Dieu soit fidèle, à la rigueur, ne change rien pour nous si on ne sait pas comment faire transférer cette fidélité de notre Père à ses enfants que nous sommes. Eh bien, J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes déjà fidèle. Parce que vous avez la nature de Dieu, votre Père. Vous avez la capacité en vous d'être fidèle. Parce qu'il y a des gens qui pensent, des fois, qu'ils sont marqués pour leur vie. Je suis comme ça, j'ai toujours été, mon Père l'a été, ça ne va jamais changer. Mais nous avons, par notre relation avec Dieu, déjà reçu en nous la capacité d'être fidèle. Nous pouvons l'être. C'est très important d'en être convaincu. Et si je prends un exemple tout à fait dans le concret, on peut prendre quelques exemples pour le moment dans la vie de couple. Quand j'ai dit la fidélité n'était plus à la mode, c'était essentiellement dans ce qui se passe autour de nous, dans la façon dont les gens vivent. Ils veulent, une des pensées du monde, c'est qu'ils veulent la liberté. Mais ils confondent ce qui est de la vraie liberté, qui est de faire la volonté de Dieu et d'agir dans ce que le Seigneur a voulu pour nous, pour notre vie, et une autorisation de faire le mal impunément. Ça, ce n'est pas la vraie liberté. Donc, il s'agit plutôt de libertinage. Certains en payent le prix fort. La Bible dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Le sida, par exemple, est non pas, c'est pas un jugement de Dieu dans le sens que Dieu a orchestré, voilà. Alors, ceux qui vont faire ça, je leur prépare une punition, ce sera le sida pour cela. Ce n'est pas cela que nous devons comprendre. Mais nous devons comprendre qu'il y a eu des avertissements dans la parole de Dieu pendant des siècles sur certaines choses qu'il fallait faire ou ne pas faire, et surtout par rapport à la fidélité. Et je suis désolé pour des personnes qui ont attrapé le sida par transfusion et les pauvres enfants qui l'ont eu parce que leur maman l'a eu, mais la plupart du temps, cette maladie s'est quand même transmise en enfreignant les commandements de Dieu. C'est la plupart du temps. On veut des fois nous tromper dans la façon dont nous percevons les choses, mais la plupart du temps, si nous avions simplement observé, je parle humanité en général, les commandements de Dieu, l'homme ne serait pas dans l'état dans lequel il est. Donc, les gouvernements, la plupart du temps, ce qu'ils préconisent, c'est l'utilisation du préservatif contre le sida. Et j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient préparé un petit autocollant et disaient « Contre le sida, le préservatif ?» point d'interrogation. Et pourquoi pas la fidélité ? Si les gens sont fidèles, ils ne risquent pas d'être contaminés. C'est quand même une réalité. Vrai ou pas vrai ? Donc, je suis conscient, j'en ai parlé, de ceux qui ont eu cette terrible maladie par ailleurs, mais la plupart du temps, eh bien, la fidélité aurait déjà réglé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et la fidélité n'est pas alors un code moral, mais c'est la puissance de Dieu qui permet d'éviter la maladie. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, le meilleur. Donc, la fidélité n'est plus à la mode. Le couple était la volonté de Dieu, mais un couple marié. Un couple où, justement, qu'est-ce qu'on a vu ? Qui remplit ses engagements. Quand on se marie, on s'engage l'un par rapport à l'autre. Et qui manifeste un attachement constant. Pas juste de temps en temps. Alors, quand nous voyons que la fidélité n'est plus à la mode, nous voyons tous les autres aspects qui apparaissent, mais qui ne sont pas nouveaux. Le concubinage, par exemple, c'est la vie avec quelqu'un, il y a un certain engagement, mais ce n'est pas un engagement forcément constant, définitif. Pour nous, nous pouvons concevoir le mariage que d'une seule façon. La façon de Dieu, c'est qu'il nous a destiné un conjoint, que nous serons avec ce conjoint pour le reste de notre vie. Je ne parle pas des situations de veuvage, par exemple, ou des situations extrêmes. Le divorce n'est pas la meilleure chose. Les gens qui divorcent ou qui sont obligés de divorcer souffrent certainement, mais il est permis dans la parole de Dieu. Il est permis dans certaines situations. Et des fois, il vaut mieux divorcer que de vivre l'enfer pendant toute sa vie. Si le conjoint est quelqu'un de violent ou d'abusif d'une façon ou d'une autre, la parole de Dieu ne veut pas que nous soyons en situation de constamment avoir cette pression sur nous. Elle veut au contraire que nous puissions vivre libres de ces choses et de ces problèmes. Donc, là encore, nous ne sommes pas pour le divorce, mais il y a des situations où ça peut être acceptable, et la plupart du temps, et la Bible parle surtout, première raison, c'est l'infidélité. La première raison, Parce que la personne qui est infidèle, elle a rompu quelque chose qui est sacré devant Dieu. Elle a rompu quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, il n'y a pas seulement le concubinage, il y a aussi quelque chose qui est l'union libre. Alors là, il n'y a plus de contrat du tout. On reste ensemble tant qu'on en retire un intérêt. Bien sûr, des gens pourraient ne pas être d'accord avec ça. Ils disent, mais nous sommes sincères, et etc. Ils n'ont simplement pas compris, peut-être pas été enseignés, que s'ils veulent vraiment la bénédiction de Dieu sur leur vie et sur leur couple, eh bien, c'est dans un engagement. C'est dans quelque chose qui sera constant et c'est dans une relation qui sera alors bénie de Dieu. Et au-delà de l'union libre, il y a encore une situation qui se développe de plus en plus en France, c'est le fait de vivre seul. Mais pas seul par les circonstances de la vie, comme quelqu'un qui aurait perdu son conjoint ou qui n'aurait pas encore trouvé l'âme sœur. Seul par choix. Je ne veux pas me lier à qui que ce soit. Ce que personne ne s'interdise pas du tout dans leur tête d'avoir des rencontres de passage ou des gens avec qui ils sont de temps en temps, mais ils ne veulent rester dans leur égoïsme. Et le Seigneur a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça s'applique au mariage, mais encore plus à chaque aspect de notre vie. Nous avons vu combien nous avons besoin les uns des autres. Personne n'est appelé à vivre une vie de Robinson Crusoe seul sur une île. Nous sommes au contraire appelés à être en société, vivre ensemble. Donc, il y a de bonnes choses à découvrir dans la parole de Dieu pour nous. Dieu lui-même dit qu'il est le témoin de notre mariage et de notre fidélité. Nous trouvons ce passage dans Malachie. Nous pourrons le regarder ensemble. Chapitre 2, verset 14. Israël se posait des questions. Pourquoi on est dans un tel état? Au verset 10, il disait, mais n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Alors, ils se lamentent, ils se disent, pourquoi on est dans un tel état? Au verset 14, il reprend cette question. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Donc, il dit que l'infidélité est la porte qui a ouvert ouvert une voie pour toutes sortes d'autres problèmes, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il y a eu une alliance. Plus loin, il est dit, prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, pour réaliser que l'Éternel est témoin de notre alliance. En fait, l'Éternel est témoin, c'est-à-dire il voit et il entend tout ce que nous faisons. Mais il y a des moments dans notre vie, il y a certains moments particulièrement importants où l'Éternel est témoin. C'est toutes les décisions, les grands choix que nous faisons. Et l'alliance entre un homme et une femme est une décision très importante. D'autant plus importante que tout ce que nous pouvons voir dans le concret, dans le pratique au niveau du couple, eh bien, nous pouvons le transposer au niveau spirituel entre nous, notre relation et Dieu. Parce que quelqu'un qui est infidèle dans toutes sortes de choses de sa vie de tous les jours ne peut pas non plus être fidèle à Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas compartimenter votre vie comme ça et dire, alors là, je suis très fidèle et ailleurs, il n'est pas fidèle. Votre attitude générale, elle va se montrer partout. Hein? Ça sera partout pareil, dans votre foyer, au travail, à l'église. Et justement, Dieu et son peuple, il y a une relation entre le Seigneur et chacun d'entre nous qui ressemble à la relation entre un homme et une femme. Pour nous qui sommes les frères, les hommes, il est peut-être difficile des fois de se mettre justement dans cette situation où l'Éternel est notre époux. Mais il y a une relation de ce type que Dieu veut avoir avec nous. Autant l'homme doit apporter la sécurité dans son foyer, doit protéger doit être celui qui prend certaines responsabilités, autant la femme doit avoir son rôle de soutien, d'aide, d'assistante pour son mari, pour qu'il puisse achever dans sa vie les choses que Dieu lui a mis dans son cœur. Eh bien, Dieu et son peuple, c'est aussi une longue histoire d'amour, puisque Dieu aime son peuple. Mais quand on parle de son peuple d'Israël, eh bien, souvent, Israël a été infidèle à Dieu. Souvent, très souvent. Mais Dieu est resté fidèle, non pas à Israël, mais à son alliance. Ça veut dire que chaque fois qu'il revenait dans l'alliance de Dieu, les choses étaient rétablies. Mais Dieu n'est pas fidèle au-delà de son alliance. Ça veut dire que chacun prend ses engagements, Dieu s'est engagé aussi envers son peuple. Mais si son peuple enfreint sa part de l'alliance, Dieu ne peut pas dire, malgré tout ce que tu as fait, eh bien, je te bénis quand même. Parce que Dieu est aussi un Dieu juste. Et nous avons besoin de comprendre ça. Ainsi, dans le prophète Osée, on ne va pas le prendre maintenant en détail, mais il y a ce fameux « Mon peuple périt par manque de connaissances » dans Osée 4-6. Eh bien, si on ne connaît pas ces enseignements de la parole de Dieu sur les exigences de la fidélité pour nous, eh bien, il est dit « Par faute de connaissances, mon peuple périt. » Il y a la mort qui s'installe. Et dans Osée, c'était toute l'histoire de Dieu qui, par le prophète, eh bien, cherche à montrer au peuple de Dieu qu'il veut encore l'accueillir, qu'il veut encore l'accepter. Parce que le prophète devait faire cette chose extraordinaire, dirigé par Dieu, se marier avec une prostituée. Une prostituée, donc, c'est la femme par excellence qui est infidèle. Ce n'est pas pour maintenant blâmer la femme en tant que telle, mais pour dire c'est la femme infidèle par excellence, puisqu'elle a un grand nombre d'amants et d'hommes qu'elle connaît dans sa vie. Et Dieu a dit à ce prophète, eh bien, va épouser cette femme prostituée pour montrer à mon peuple que malgré ses infidélités, je l'aime encore. Et cet homme, prophète, on savait que les sacrificateurs et les prophètes étaient ceux qui avaient l'onction, qui étaient saints, qui avaient l'huile, on peut dire, du Saint-Esprit sur eux. Eh bien, normalement, à cause de leur fonction et de leur sainteté, ils ne devaient rien toucher de quoi que ce soit qui était souillé. Les sacrificateurs devaient se marier surtout avec une vierge et ne pouvaient aucunement se marier avec une femme qui avait déjà eu un mari. Sauf, dans certains cas, si c'était la veuve d'un sacrificateur. Donc, c'était vraiment très, très strict. Alors, pour Dieu donner l'ordre à son prophète de se marier avec une prostituée, qui à peine ils étaient mariés, lui a été infidèle, et qu'il a dit, et retourne encore vers elle, et reprends-la chez toi. Donc vous voyez toute l'œuvre de Dieu à l'égard de son peuple, qu'il continue d'aimer, et nous sommes son peuple. Alors quelles conséquences envers nous? Eh bien, ça nous parle de la fidélité pour le chrétien. Juste encore un mot sur la fidélité de Dieu. Que Jésus, qui est parfaitement Dieu, qui est le Fils de Dieu, est appelé aussi le fidèle dans plusieurs passages de la Bible, mais en particulier dans Apocalypse 19, 11, il nous est dit cette vision de Jean, « Puis je vis le ciel ouvert. » Il a vu ce qui se passe de l'autre côté, ce que nous aimerions tous savoir, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien, il l'a vu, et il a vu un cheval blanc et quelqu'un qui était dessus. Et ce quelqu'un s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le reste de la parole de Dieu. Eh bien, c'est lui-même qui est appelé le fidèle. Et Agée 2.5 parle de cette fidélité de Dieu à son alliance. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et mon esprit est au milieu de vous. » Donc, la fidélité du chrétien maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le chrétien être fidèle? Eh bien, pour le chrétien être fidèle, c'est d'abord comprendre qu'il est fidèle par nature. Même si un chrétien ne manifeste pas de la fidélité, sa nature est d'être fidèle. D'ailleurs, au début, les premiers chrétiens, on ne les appelait pas comme ça. On les appelait disciples et on les appelait les fidèles. Et ce ne sont que les gens de l'extérieur qui ont commencé à les appeler chrétiens. D'abord, c'était pour se moquer d'eux. Pour qui se prennent-ils cela? Ils se prennent pour des petits Christ. Alors c'était une façon de se moquer des petits Christ qui a donné chrétien après, et c'est ce que nous avons gardé comme appellation. Mais à l'origine, on parlait surtout de disciples et de fidèle. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il écrit dans 2 Corinthiens 6, 15, il dit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Bélial étant le démon personnifié. « Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Il appelle le fidèle celui qui est en Christ et l'infidèle tous ceux qui n'ont pas cette relation avec Dieu, qui ne font pas partie de son royaume. Donc, le chrétien est fidèle. La fidélité de Dieu a été transférée à nous. Je veux dire, c'est dans nos gènes spirituels. Donc, le chrétien est fidèle tout d'abord envers Dieu. Psaume 78, 8, il nous est dit que nous ne devons pas être comme nos pères, là il est parlé du peuple d'Israël et de leurs ancêtres, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Donc ça se passe avant tout au niveau de l'esprit. Parce qu'en général, dans le naturel aussi, une infidélité ne commence pas au niveau du corps. Ça commence à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus a dit d'une façon qui a beaucoup surpris les gens, qui jugeaient beaucoup sur l'extérieur, quand il a dit un homme, par exemple, quand il regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Pour lui, il a dit, ce n'est plus qu'une question de temps pour passer à l'acte. S'il garde en lui cette pensée de l'adultère, par rapport à la convoitise, eh bien, il le fera. Donc, en général, il n'y a pas une situation qui propulse quelqu'un dans l'adultère, il y a d'abord à l'intérieur ce qui s'est passé. Donc, pour nous aussi, quand nous voulons être fidèles à Dieu, c'est d'abord dans notre esprit, dans notre fort intérieur, qu'il nous faut être déterminés. Il y a cette promesse, on va voir tout à l'heure les promesses qui sont rattachées, mais je vous la donne déjà celle-ci. Quand il est dit en Apocalypse 2:10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire que si quelqu'un veut te dire « Renie Jésus » ou alors on va te fusiller, t'exécuter ou faire quelque chose comme ça, c'est le moment de prouver sa fidélité. Mais pour nous, fidèle jusqu'à la mort, ça veut dire on est fidèle tous les jours et jusqu'au bout, pas juste de temps en temps. Parce que si ce n'est pas d'une façon constante, ce n'est pas la fidélité. Une seule infidélité montre déjà que l'engagement n'a pas été tenu. Ça nous paraît tellement exigeant que dans le naturel, on peut être écrasé si on ne sait pas que Dieu nous en rend capable. Il nous en rend capable ce matin par les choses que vous apprenez. Vous pouvez changer cela. Vous pouvez décider d'être fidèle dans votre esprit. Vous pouvez décider de chasser les choses qui peuvent être des infidélités dans votre vie. Fidèle envers Dieu lui-même, fidèle à sa parole. Psaume 17, 4, il nous est dit, « À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. » Ça veut dire que la personne qui écrit, elle regarde les choses qui se passent autour d'elle, et elle voit des actions violentes, elle voit des hommes qui agissent d'une certaine façon, mais alors elle fait ce choix de rester fidèle à la parole, parole sortie de tes lèvres, c'est-à-dire les paroles que Dieu a proclamées. Et elle décide de se tenir en garde contre la voix des violents. Fidèles les uns envers les autres. J'ai déjà parlé de l'exigence par rapport aux conjoints. Il y a une belle illustration dans Ézéchiel 16, 8, où Dieu compare aussi son peuple à une femme qui avait été mise au monde et qu'on avait laissé sur le côté un enfant abandonné dès sa naissance. Et dit, « Je passais près de toi et je te regardais. » Cet enfant qui a été abandonné, il en a pris soin, l'a fait grandir. Et maintenant, je passais près de toi. Et on peut donc c'est d'une façon imagée où ce peuple d'Israël, Israël, Juda, eh bien, d'enfants, ils ont grandi et il dit, et voici ton temps était là. C'était devenu une jeune femme. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Cette façon de la prendre pour femme. Je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. C'est l'image de cette alliance, de cette union qu'il y a eu entre Dieu et son peuple. Encore une fois, repris sur l'image de l'alliance d'un homme et d'une femme. Il y a donc cette fidélité que nous devons manifester les uns envers les autres, aussi au niveau de nos conjoints, de nos enfants, de nos familles. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et Proverbe 27, 6, il nous est dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Des fois, quand un ami ou quelqu'un de proche nous dit quelque chose qui est désagréable, on est blessé. Notre amour propre est blessé. Notre orgueil, ce qu'il en reste encore, est blessé. Mais il nous est dit que ce genre de blessure prouve sa fidélité. Ça veut dire qu'il nous aime sincèrement et qu'il veut nous aider. Par contre, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les gens qui vous félicitent et qui vous disent « tout va bien », en réalité, ils se disent « ça nous est égal ce qu'il en advient de toi ». Peu importe. Donc, il peut y avoir une fausse amitié, mais la vraie amitié demande aussi des fois de dire des choses qui peuvent blesser. Proverbe 11, 13, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Donc, savoir aussi fermer sa bouche et ne pas parler sur les autres. Ça montre, quoi encore ? Eh bien, celui qui a l'esprit fidèle en est capable. Les autres n'en sont pas capables. Si vous n'avez pas d'abord décidé dans votre esprit d'être fidèle, alors votre bouche va s'ouvrir et vous parlerez et vous allez trahir des choses. Et vous ne serez pas fidèle à votre ami. Parce que tout le monde a des défauts. Mais personne n'aimerait qu'on crie sur tous les toits les erreurs que vous avez faites, qu'on rappelle sans cesse. Ou encore une calomnie. La calomnie, c'est parler mal de quelqu'un. Mais peut-être pour des choses qui sont vraies, qui se sont passées. Mais calomnie, dans le sens que on dit les choses qui sont vraies, mais qui sont négatives ou mauvaises. Parce que sinon, ce n'est pas une calomnie, c'est un mensonge. Quelqu'un invente des choses sur vous et te les raconte. D'accord ? Donc, Proverbe 13-17 dit « Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. » Donc, être fidèle les uns envers les autres, ça veut dire que si je suis fidèle, j'apporte la guérison. Ça apporte des bonnes choses. Les uns envers les autres, donc on a vu un petit peu cette fidélité. Et au travail, sommes-nous connus pour notre honnêteté et notre fidélité? C'est des fois difficile d'être fidèle et d'être honnête avec des gens qui ne vivent pas selon le standard de Dieu, mais la Bible nous demande de le faire. Elle demande de le faire d'autant plus si, par exemple, ce sont des chrétiens qui vivent honnêtement, mais de toute manière. Et pour ceux qui veulent servir Dieu, et nous sommes tous appelés à le servir d'une façon ou d'une autre, eh bien, c'était une des exigences du ministère. D'abord, avoir un bon témoignage. Et ce bon témoignage, eh bien, on l'a par la fidélité qu'on manifeste. Une fidélité doit aussi se manifester dans l'église locale. L'église locale est vraiment l'endroit où on peut s'exercer, on peut grandir, on peut se développer et on ne peut pas dire « je suis fidèle au corps de Christ dans son ensemble ». C'est bien de dire des bonnes choses sur le corps en général, d'avoir du respect pour les chrétiens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur dénomination. Mais le plus important, c'est dans le groupe local, là où Dieu nous a placés. Là, on grandit. Parce qu'on est obligé de vivre ensemble, de nous-mêmes, d'être capable d'accepter les autres comme ils sont, se faire accepter malgré nos défauts. Donc, dans l'église locale, manifestons notre fidélité. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu comme définition de la fidélité? C'est quelqu'un qui remplit ses engagements et quelqu'un qui manifeste un attachement constant. Donc, être fidèle à l'église locale, ça veut dire je ne change pas constamment d'église locale. Ce n'est pas possible. Et je ne parle pas ici de déménager ou je ne parle pas d'une capacité que Dieu nous donne d'évoluer. On peut très bien apprendre certaines choses dans une église, après être conduit par Dieu à aller ailleurs parce qu'il a un projet, un plan pour nous. Mais je parle ici d'être fidèle là où Dieu nous a placés dans un attachement constant. Nous ne sommes pas appelés à aller d'un endroit à l'autre constamment. Et l'engagement. L'engagement dans Apocalypse 2:19, le Seigneur dit qu'il nous voit et qu'il connaît les choses que nous faisons. Qu'est-ce qu'il connaît? Je connais tes œuvres. Dieu sait tout ce que tu fais. Il sait aussi tout ce que tu fais spirituellement. Est-ce que tu as du poids spirituellement? Vous savez que le roi de Babylone, qui avait emmené les ustensiles en or dans son pays, alors ils ont fait une fête, ils ont bu du vin, etc., dans les coupes d'or qui étaient destinées au service de Dieu. Eh bien, cette main est apparue sur le mur. Il disait peser, peser, compter et trouver léger. Et dit Dieu a regardé et il l'a trouvé léger. Spirituellement, il a fait des choses où il n'a pas respecté la sainteté des choses de Dieu. Et donc pour nous aussi, c'est important de se dire les œuvres que je fais pour Dieu, qu'est-ce qu'elles valent? Mais Dieu les connaît. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Je connais ton fidèle service. Ta constance, notion proche du fidèle service, la constance. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc je connais tout ça. Dans l'engagement, il nous est dit que Jésus lui-même, il a dû être rendu semblable à toute chose, en toute chose, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'était l'exigence pour Jésus aussi d'être fidèle dans le service de Dieu. Hébreux 3.2 nous dit « Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse le fut dans toute sa maison. » Et Hébreux 3.5 nous dit « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. » Il y a donc là, nous avons des modèles, Jésus, Moïse, qui ont été des serviteurs de Dieu remarquables, eh bien, ils ont montré leur fidélité dans le service pour la maison de Dieu et leur attachement à Dieu. Une fidélité dans l'église locale, eh bien, c'est parce que c'est la plupart du temps, c'est là que ça se manifeste, et aussi dans les dîmes et les offrandes, dans notre façon de participer à ce qui se fait. Luc 16:10, Jésus a dit concernant l'argent et la façon de gérer les choses matérielles, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Que ça soit bien clair, nous n'avons pas besoin de payer Dieu pour recevoir des bénédictions. Ce n'est pas possible, on ne peut pas l'acheter. Avec quoi vous voudriez payer? Avec quoi vous voudriez acheter une bénédiction de Dieu? Ça a coûté la vie de Jésus et le sang de Jésus pour pouvoir nous bénir. Mais il est certain que par notre engagement, nous nous mettons dans une position où nous sommes capables de recevoir. Et Jésus dit, on peut mesurer la fidélité de quelqu'un dans les petites choses. Il appelle les petites choses des choses matérielles, les choses de tous les jours. Ainsi, par exemple, les besoins de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui dit, je suis de cette église locale et qui ne contribue jamais financièrement d'aucune façon, ce n'est pas normal. Il est infidèle dans les choses parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'a rien. Même si nous avons peu, Dieu nous a donné quelque chose. Et nous savons que ce n'est pas le montant qui importe, mais avant tout l'attitude de cœur et aussi la part que je garde pour moi et celle que j'investis pour Dieu. Jésus a donné très clairement cette illustration de cette femme veuve qui n'avait juste une toute petite pièce, mais qui l'a donnée à Dieu avec foi. Et dit, et d'autres, des riches, avaient mis des tas d'argent, mais ils ont dit juste un peu de leur superflu, ça leur coûtait rien du tout de ce qu'ils ont donné. Donc Jésus dit, vous serez éprouvés par votre fidélité dans les moindres choses. Il continue dans Luc 16, au verset 11 et 12. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Fidèles dans ce qui est à autrui. Jésus estime que les choses que nous avons sur terre ne nous appartiennent pas réellement. Que nous sommes juste les gestionnaires des biens de Dieu. Nous sommes comme ce fils prodigue ou le fils aîné de son père qui habitait avec le père, qui avait les choses qui étaient à son père à sa disposition, mais on peut dire qu'elles, d'une certaine façon, ne lui appartenaient pas en propre. Ils lui appartiendront le jour où il sera pleinement dans l'héritage seulement. mais ils pouvaient jouir déjà de certaines choses. Matthieu 23, 23 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la justice, la miséricorde, dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Il dit « Ça, c'est important, la fidélité. » Il dit « Payez la dîme sur des petites choses comme la menthe, l'aneth et le cumin, des herbes. » Ça, c'est pas tellement important. Mais ce qui est important, plus important, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et il dit « C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Il dit « C'est vrai, il ne faut pas négliger la dîme sur les petites herbes. Mais ce qui est plus important, c'est d'être fidèle, de pratiquer la justice et la miséricorde. » Alors, dans l'église locale, je dis que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Comment Dieu cherche des serviteurs? Eh bien, le psaume 101, verset 6, nous dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Voilà ce que dit Dieu. Voulez-vous servir Dieu ou le diable? Nous préférons servir Dieu. C'est un bon maître et récompense. Et le diable est quelqu'un qui, des fois, aide certaines personnes pendant un temps, tant qu'ils lui sont utiles. Et après, eh bien, il s'en débarrasse et il se venge sur eux. Et donc, nous avons, au contraire, Dieu qui n'est pas un maître difficile et dur. Il est notre Père, il est le bon berger. Et il cherche aussi des personnes pour qu'ils demeurent auprès de lui. Alors, voilà, nous avons lu ensemble comment il fait pour trouver des serviteurs. Il regarde, est-ce qu'il y a des fidèles? C'est comme ça qu'il les cherche. Nombre 12, 7. Mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Dieu avait vu cette qualité, ce trait de caractère de Moïse, de la fidélité. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Et il est dit dans la parole de Dieu que quand il est né déjà, Dieu avait trouvé que l'enfant était beau. Et plus tard, il l'a choisi pour être le libérateur de son peuple. Alors, c'était pas juste parce que c'était un beau bébé qu'il était plus beau que les autres. Il a vu en lui déjà des attitudes et des traits de caractère. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Comment Dieu peut-il faire ça? Mais c'est parce qu'il est Dieu. Il a déjà vu que c'est quelqu'un sur qui je pourrais compter. C'est quelqu'un que je pourrais utiliser. Et il l'a établi. 1 Samuel 2, 35 dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. » Dieu avait aussi des problèmes de trouver à certaines périodes même des sacrificateurs fidèles. Dans le contexte, il est question d'Élie, le sacrificateur, qui honorait ses fils plus que Dieu, qui était faible de caractère et qui n'était pas intègre et qui n'a pas su servir fidèlement. Et il a été enlevé de son sacerdoce. Et Jésus pose la question, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc quand Dieu cherche quelqu'un pour donner de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, aux gens, à ses gens, eh bien il cherche quelqu'un qui serait un serviteur fidèle. C'est une des premières chose que Dieu veut voir en nous. C'est pas juste quelque chose qui est annexe. Ah oui, et à propos, il faut aussi être fidèle, comme petite clause du contrat qu'on rajoute. Non, c'est essentiel. On nous dit que David, vous savez quelle réputation avait le roi David? Il a un petit surnom. On appelle l'homme selon le cœur de Dieu. On le surnomme l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, il faut, s'il est selon le cœur de Dieu, il faut forcément qu'il ait été fidèle. Eh bien, ça, c'est intéressant de voir que, justement, à un moment de sa vie, il a été infidèle une fois. Et toutes les conséquences de son acte, la descente en enfer, on peut dire, si j'ose utiliser cette expression, que ça a produit pour David, tout a diminué après cette chose qui s'est produite. Tout s'est détruit. Mais à un moment donné, il l'a été quand même. Il avait cette qualification. 1 Samuel 22, 14. Et on nous parle de David. « Lequel d'entre tous tes serviteurs, on parle au roi, peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres, honoré dans ta maison. Donc, quand on cherche le serviteur de Dieu, on cherche la fidélité. Tite 2:10 nous dit que ceux qui veulent servir doivent montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. 1 Corinthiens 4:2, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, mot peut-être un peu compliqué, dispenser, ça veut dire qu'on est, on donne, on est capable de donner. Un dispensaire, on comprend que c'est un endroit où on peut recevoir des soins. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur demande? Eh bien, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et Paul disait dans 1 Timothée 1:12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » La qualification, encore dans Tite 1:6, « S'il trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit accusé ni de débauche, ni rebelle. » Donc ça veut dire que les qualifications pour le service de Dieu, ça peut être notre propre fidélité, et même là ça va plus loin, la fidélité de nos enfants. La fidélité de nos enfants montre que ce caractère de fidélité que nous avions en nous, nous avons été capables de le transmettre à nos enfants. Alors ça c'est un bon point. Ça montre, là, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Peut-être qu'on ne fait pas encore partie de cette catégorie. Je me demande s'ils en ont trouvé beaucoup à l'époque, quand ils cherchaient des hommes irréprochables, mais nous comprenons ce que nous voulons dire. On n'est pas parfait, mais il y a quand même des exigences. La dernière chose que je voulais dire aussi, quand on parle de fidélité les uns envers les autres, et qu'on parle de l'église locale et du service de Dieu, il y a aussi une fidélité à l'homme de Dieu, au pasteur. Parce qu'il y a une relation entre l'homme et la femme, quand ils sont mariés, il y a une relation entre Dieu et son Église, et il y a aussi une relation entre le pasteur et l'Église locale. Il est là pour veiller sur l'Église, pour donner sa vie pour elle, pour l'aimer, pour la nourrir, pour en prendre soin, et elle est là aussi pour rendre certaines choses dans sa fidélité, et donc ceux qui veulent, en particulier ceux qui veulent servir le Seigneur dans l'Église locale, doivent montrer dans leur attitude une fidélité par rapport à l'homme de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Si on est habité de sentiments d'individualisme et de rébellion, on ne pourra faire aucune œuvre valable. Donc, il y a aussi un attachement à l'homme de Dieu. Non pas pour l'idolâtrer et pour le mettre à la place de Dieu, mais simplement pour comprendre que pour l'harmonie et le bon fonctionnement du corps, c'est nécessaire. Je parle du fonctionnement du corps de Christ. Et maintenant, on arrive au dernier point, les récompenses. Les récompenses, il y a des récompenses à la fidélité. Peut-être toute cette préparation est longue par rapport à ses exigences, il faut être fidèle, mais Dieu nous connaît, il sait comment nous sommes faits. Nous aimons qu'il y ait quelque chose de gratifiant. Vous n'aimez pas ça? Moi, je veux qu'il y ait une récompense à la fin quand je fais quelque chose. Mais si je fais un travail qui m'est pénible, le fait de savoir que j'aurai la satisfaction d'avoir terminé quelque chose, ça m'aide pendant tout ce que je fais. Même si c'est pénible, même s'il faut transpirer, s'il faut travailler dur, à la fin, nous en avons la récompense. Et si nous sommes faits comme ça. Nous ne sommes pas faits pour travailler sans relâche, comme justement les esclaves. L'esclavage est une abomination. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un homme qui domine sur un autre. Les hommes ont utilisé des bêtes de cette façon. Bon, on ne se met pas tellement en peine pour les bêtes. Mais nous sommes des êtres humains qui avons été créés de cette façon, que lorsque nous faisons une œuvre, eh bien, on en attend un résultat, on en attend une récompense. Eh bien, Dieu n'est pas contre cela du tout. Au contraire, il récompense la fidélité. Il est très attentif à cela et il donne des récompenses. Donc comprenez bien, la fidélité, ce n'est pas juste une fois, mais de façon constante. Parce que certains, ils veulent faire une fois quelque chose dans l'église et tout de suite après, ils veulent que les bénédictions de Dieu coulent abondamment dans leur vie et ils ne comprennent pas si ils ont fait quelque chose aujourd'hui et demain, il n'y a pas encore la surabondance de Dieu à tous égards. Non, mais ils n'ont rien démontré du tout. Ils ont juste démontré qu'ils étaient capables d'un coup d'éclat ou d'un acte ponctuel. Mais ce que Dieu veut voir, c'est quelque chose de constant, un attachement. Un homme fidèle, dit Proverbe 28:20, est comblé de bénédictions. 1 Samuel 26:23 dit, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Donc, les récompenses de Dieu, ben, on a parlé de la fidélité exigée par Dieu au niveau de notre couple, ben, les récompenses, c'est de vivre le ciel sur la terre, dans nos relations de mari-femme, de pouvoir expérimenter une relation riche, une relation où vraiment chacun est épanoui. Il y a un vrai bonheur dans une relation constante, où nous pouvons nous connaître, être dans l'intimité. Eh bien, ça, c'est la récompense de Dieu, que certains qui sont infidèles ne connaîtront jamais. Ils vont toujours courir après des expériences où ils seront de plus en plus frustrés parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu l'épanouissement pour l'être humain. Ensuite, la récompense, c'est une prospérité à tous égards. Luc 19:17, la chose que nous aimerions tous entendre, qu'un jour le Seigneur nous dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois, là dans l'histoire, c'est reçois le gouvernement de 10 villes. Donc je ne sais pas si votre rêve c'est de gouverner 10 villes, mais ici c'était l'exemple qui a été pris. Dans le livre de Daniel, Daniel, n'oublions pas, a été un prisonnier de guerre, exilé dans une terre étrangère où il y avait des idolâtres. Et bien dans cette situation, il nous est dit que Daniel 6:4, que les autres chefs du royaume de Babylone, les chefs et les satrapes, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, parce qu'il avait été élevé à une place élevée. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Il était fidèle. Et c'est pour cela qu'il a reçu de Dieu cette position. Il était numéro 3 à un moment dans le royaume. Et après, il a été élevé encore, il était juste après le roi. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et donc quand je dis prospérité à tous égards, c'est Jérémie 33:6, voilà la promesse de Dieu. Je te donnerai la guérison, la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Une source abondante. Des fois, malgré la fidélité, la récompense peut se faire attendre. Il y a des moments où il nous faut persévérer. Il y a des moments où il faut attendre. 2 Chroniques 32:1 nous dit « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. » Intéressant parce qu'il est dit « après ces actes de fidélité ». Nous, on aurait tendance à dire « après un acte de fidélité, sécurité, tranquillité, pas de problème ». Mais ici, dans la Bible, il nous est dit « ils ont été fidèles et malgré ça, il y a une armée étrangère qui est venue les envahir ». Mais si on en reste juste là, on peut être découragé en se disant « alors à quoi ça sert d'être fidèle ? Regardez, ils ont fait des actes de fidélité et puis l'ennemi vient quand même ». Mais l'important, ce n'est pas que l'ennemi vienne quand même, mais que l'ennemi est reparti sans prendre Jérusalem. Il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Et nous, on ne doit pas s'arrêter non plus en plein milieu dans notre vie, en disant, regardez tout ce que j'ai fait pour Dieu dans le passé, j'étais fidèle à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà dans quel état je suis. Mais même si tu as un passage difficile, l'histoire n'est pas terminée. Il faut que nous puissions considérer, nous dit la Bible, ceux qui, en Hébreux 13:7, souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous conduisent, ceux qui sont devant vous, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi, mais considérez la fin. Ne considérez pas ce qui est au milieu. Si moi je prêche la guérison divine que Jésus guérit encore aujourd'hui et que il se peut que dans mon corps, eh bien, j'ai une fois un problème de santé, les gens peuvent regarder en disant, regardez, il prêchait la guérison divine, regardez dans quel état il est. Mais le fait est que je ne suis pas resté malade et que je suis guéri et que j'ai été restauré au niveau de ma santé. Il faut considérer la fin. Et donc, vous voyez, malgré certains actes de fidélité, il se peut que la récompense ne soit pas immédiate. Mais l'histoire s'est bien terminée. Néhémie 9:8, tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens. Et je ne lis pas tous les noms des peuplades, mais il est dit, tu as tenu ta parole car tu es juste. Dieu tient toujours sa parole. Alors, notre attente, comme je l'ai déjà dit, notre attente, c'est Matthieu 25:21, c'est que Jésus nous dise un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais encore vous donner deux, trois aspects sur la base. La fidélité dans notre vie est une base pour beaucoup de choses. Par exemple, notre victoire est basée sur la fidélité. 1 Corinthiens 10:13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. À cause de la fidélité de Dieu, nous sommes capables de supporter les tentations. Une base pour notre victoire, une base pour notre protection et notre sécurité. Psaume 91:4, il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 97:10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, car il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Notre foi se base sur la fidélité de Dieu. Hébreux 10:23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre foi dans le pardon des péchés. 1 Jean 1:9 nous dit, si nous confessons nos péchés, si on les avoue à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu sera toujours fidèle, alors soyons-le aussi. Je ne trahirai pas ma fidélité, dit Dieu, dans le psaume 89:33. Psaume 78:37, leur cœur n'était pas ferme envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Mais Dieu, lui, il reste fidèle. 2 Timothée 2:13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, comment le devenir? Bien, comme je l'ai dit, nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà en nous, mais nous pouvons grandir dans cette fidélité. Psaume 86:11, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Proverbe 14:22, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Donc il nous faut entendre les enseignements de Dieu pour marcher dans la fidélité. Méditer sur les choses bonnes pour agir avec fidélité. Et pour terminer, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Gravez-les à l'intérieur, la bonté et la fidélité. Et qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Eh bien, nous devons jurer fidélité. C'est ce que nous dit les 2 Chroniques 15:14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Ils jurèrent à Dieu fidélité. C'est-à-dire, un moment, vous avez reçu maintenant cette parole de Dieu qui vous a parlé de la fidélité. Maintenant, c'est à vous de jouer, on peut dire. Maintenant, c'est à vous de jurer fidélité à Dieu. De dire, oui, je veux m'engager pour la fidélité. Et il est dit à haute voix. Parce que c'est dans le cœur et dans la bouche que ça se passe. Quand vous faites quelque chose, dites-le devant Dieu, dans la prière. Amen. Amen. Alors, levons-nous. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alors, c'est à vous de dire à Dieu, ben moi, tu peux, je suis là, je veux te jurer fidélité, j'ai compris que si je peux être fidèle, c'est parce que toi, tu es fidèle et que tu m'en rends capable. Seigneur, nous prions pour plus de fidélité au milieu de ton peuple, que nous puissions t'honorer. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci pour toutes tes promesses. Merci parce que tu tiens toujours parole. Et merci parce que ta parole nous dit que si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle à ta parole et à ta promesse. Et nous pouvons, si nous sommes infidèles, eh bien revenir à toi. Et sur la base de ta fidélité, recevoir le pardon de nos erreurs, de nos péchés, de nos fautes passées. Et nous pouvons dire, nous voulons maintenant prendre cette décision, être déterminés à être fidèles dans notre esprit. Merci pour tous tes bienfaits qui vont découler de cette fidélité, ce fruit de l'esprit.